Géomètre négligent, nous ne nous sommes pas posé la question du point obscur du tableau où convergeaient pourtant toutes les lignes des perspectives et qui était une gigantesque, une assourdissante absence, celle des tombes. Aucune fosse commune, aucun ossuaire, pas le plus petit monceau de crâne dans le périmètre de nos fouilles. Pas de traces des morts. À notre décharge, si nous avons été aveugles, c'est parce que cela ne nous paraît pas spécialement remarquable. Nous brûlons ou laissons nos morts derrière nous, que le vent et la terre se partagent. Les mères parfois construisent un cairn là où sont abandonnés les cadavres des enfants. En quelques mois, tous ces cairns se ressemblent et bientôt ils s'écroulent, comme l'oubli écroule en nous les souvenirs des disparus et nous écroulera à notre heure. Que restera-t-il de nous après l'apocalypse? Il est 14h passées de 2 minutes, vous écoutez la radio juste avant le grand fracas. Bienvenue dans les nouvelles vagues. Les fins de monde appellent les récits et imposent qu'ils soient pluriels, chaotiques, dérangeurs. C'est pourquoi Alice Ramon et Romain de Bec-de-Lièvre ont été demandés 5 histoires de la fin des temps à l'essayiste et vidéaste Paco Mthielman. Après l'étoile absinthe hier, c'est la figure de Messaline qu'il évoque aujourd'hui.
Donc là, une femme qui pense à son plaisir d'abord, met en danger la civilisation en tant que finalement la civilisation repose sur le sevrage des hommes et des femmes, et là en l'occurrence sur le sevrage des femmes.
Quand les polémistes latins ou chrétiens sont obsédés par les nymphomanes, c'est qu'ils ne supportent pas qu'il y ait des personnes qui attendent une vie plus intense. C'est Paco Mthielman qui le dira, vie intense vers 14h50. Et c'est le 4e temps de ce chantier thématique consacré aux fins de monde, et cette fois nous l'appellerons grand fracas. Après elle, c'est l'heure des retours et des reflets. Dans le livre qui nous occupe aujourd'hui, après la copep, l'apocalypse, des nomades découvrent les vestiges du lotissement grand siècle, et dans les parpaings dormants, les dessins de routes, les objets recouverts de poussière, ils cherchent les débris de miroirs pour refléter les existences de ceux qui avaient voulu vivre là. Les débris sont épars et les débris sont contradictoires. Dans le silence des ruines, les survivants nomades jouent à faire entendre ce que leurs semblables disparus auraient eu à raconter. Seulement faire parler les morts, c'est toujours parler un peu en son nom et de soi, l'archéologie se jouant des similitudes avec celui qui cherche. Fanny Taillandier, c'est vous qui fichez le monde par terre dans ce livre, peut-être pour le regarder plus calmement à la faveur de ce lotissement qui en dit beaucoup sur le reste tout autour. Les états et empires du lotissement, c'est paru au PUF, c'est trompeur. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
J'ai parlé du grand fracas qui est le nom que vous donnez à ce que vous appelez cette sorte d'apocalypse. Pour autant, c'est quand même une fin de monde, ce grand fracas?
Oui, en fait, c'est la fin du monde. En fait, je me suis demandé à quoi ressemblerait la fin du monde si toutes les fins du monde qu'on nous promet jour après jour avaient lieu en même temps. Donc à la fois krach bancaire, fin du monde écologique, famine généralisée, épidémie, etc. Donc les survivants, parce qu'il en reste quand même, l'être humain c'est un peu comme les rats, ça reste après la fin du monde. Et les survivants, eux, appellent ça le grand fracas. C'est leur date.
Ça veut dire que vous avez été un peu exploré en profondeur, parce qu'on est en effet très abreuvé de ces récits-là, mais vous êtes approché un peu plus près de tous ces récits-là?
Pas forcément, mais disons que je me suis dit, il faut quand même que j'évoque, parce que au début, j'avais pas fait la fin du monde. J'avais juste ces nomades qui étaient après la fin du monde. Puis à un moment, je me suis dit quand même, il faut que je parle de ce qui s'est passé. Et eux-mêmes, en fait, comme ils ont pas vraiment de système d'écriture et qu'ils ont une mémoire, qui est très sélective, n'en savent pas grand-chose. Mais voilà, j'ai imaginé l'inflation de tout ce qui fait peur aujourd'hui et qui pourrait amener à la fin du monde. Donc, par exemple, j'ai imaginé que les polices type Frontex, enfin ces espèces de polices à mi-chemin entre la milice et le service secret, enfin on sait jamais trop ce que c'est, devenaient complètement, enflaient en termes d'effectifs, etc. Et puis du coup, les riches se retranchaient de plus en plus, etc. Enfin, j'ai imaginé comme ça les allures que ça pourrait prendre pour arriver à la grande catastrophe. Mais non, je crois pas que j'ai fait un travail documentaire très très grand à ce niveau-là. C'était plutôt pour sans doute une façon aussi d'exorciser ce qu'on nous promet, quoi.
Parce que D'ailleurs, si les nomades ne savent pas grand-chose de ce qui s'est passé au moment où le monde se termine, le lecteur non plus, et assez vite, en fait, on se préoccupe pas tellement de savoir ce qui s'est passé, mais plutôt ce qui se passe au moment où la fiction commence, à savoir cette enquête fictive des nomades qui trouvent des ruines. Les ruines, ce sont ceux d'un lotissement particulier qui s'appelle le lotissement Grand Siècle, dont on apprend des choses à partir de parfois de documents, qui ont l'air de documents administratifs, et puis on ira ensuite vers la pluralité des formes et des jeux que vous choisissez pour travailler justement ces reflets. C'est un lotissement qui est bâti en 1968, la décolonisation étant terminée, une partie de la guerre d'Algérie à peu près liquidée par la politique française, en tout cas sa mémoire. Et il se trouve que les premiers habitants, on les appelle les pionniers, ce qui fait directement référence à un vocabulaire colonisateur. Est-ce que vous avez vu une sorte d'appel intéressant entre ces deux termes-là, le pionnier qui part coloniser, le pionnier qui va s'installer dans des espaces plus vierges après que la colonisation a entre guillemets terminé.
Bah, c'est intéressant parce que pendant l'écriture, je me suis pas du tout posé la question en ces termes, le lien avec la colonisation et la guerre d'Algérie, mais m'a pas spécialement travaillé, mais là, en vous entendant le dire, ça fait résonner très fort une autre forme urbaine qui m'intéresse beaucoup et qui était pour le coup tout à fait présente en banlieue parisienne, qui était le bidonville de Nanterre. Et du coup, c'est vrai que bon, ce moment des années 60 et 70, et ce moment bon, en plus particulièrement fort symboliquement de 1968, c'est aussi un moment où il y a cette espèce de réfraction de choses qui sont diamétralement opposées, dont on retrouve aujourd'hui toutes les conséquences et qui semblent ne pas avoir été liées dans le discours de l'époque. Et de la même façon que mai 68 et l'ouverture du lotissement en mai 68, parce que ça, pour le coup, je ne l'ai pas inventé, c'est le premier lotissement et Lévite a vraiment ouvert en mai 68 à côté de Versailles. C'est jamais interrogé, ce lien-là n'est jamais interrogé, alors qu'en vérité, ce sont les mêmes gens, et c'est la même époque, c'est la même histoire et c'est le même pays. Donc c'est intéressant. Après, sur la question des pionniers, moi, le mot m'a été soufflé par le président de l'AFUL, donc qui est le type de syndic de copropriété qui est en vigueur dans certains lotissements d'un des villages lévites d'Île-de-France que j'avais interviewé il y a fort longtemps, et lui ça revenait toujours.
C'est un mot qui
il en parlait comme ça,
utilisé par en fait tous les habitants qui arrivent dans ces nouvelles villes et dans ces nouveaux lotissements. C'est un mot qui est extrêmement courant, en fait, ce mot.
C'est ça, ils le vivent comme ça, en fait. Donc comme un front pionnier aussi, ce qui est intéressant puisque ça a été l'ouverture de la périurbanisation et de l'étalement urbain. Donc effectivement, il y a un front qui recule, comme dans la conquête de l'Amérique, quoi.
Alors on entend, quand vous parlez de cet entretien-là, et puis on sent évidemment au cours des pages, et puis je disais que c'était une publication trompeuse chez PUF, mais en même temps extrêmement intéressante, parce qu'il y a évidemment beaucoup de documentation, et c'est une fiction documentée. Pourquoi est-ce que vous avez pourtant décidé de faire une fiction avec tous les codes dès le départ de la fiction ?
Alors je sais pas si je l'ai décidé. Je crois qu'au moment où j'ai commencé à écrire des textes sur ce thème, sur le lotissement, en fait j'avais très envie de m'amuser, parce que à ce moment-là j'avais plus ou moins vendu un projet de roman à mon éditeur de l'époque, et puis en fait je m'amusais pas beaucoup à le faire, pour le coup je m'ennuyais un peu, et en fait j'ai commencé en m'amusant, et j'ai commencé par des pastiches, et au fur et à mesure je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer les pastiches. Mais pour continuer les pastiches, il fallait à ce moment-là que je me documente. Et du coup, ça a été plutôt un aller-retour, mais qui a commencé par le jeu plutôt que par la documentation. Je me suis jamais dit, tiens, je vais faire un essai. D'ailleurs, je crois que je suis pas du tout essayiste dans l'âme. J'ai envie de discourir sur des choses, mais par le biais de la littérature. C'est dans ce sens-là que ça s'est passé.
Et c'est assez clair.
Nous avons aperçu le lotissement Grand Siècle pour la première fois depuis la hauteur courbe du viaduc sur lequel nous étions montés pour repérer les environs. Nous avions gravi les pentes de l'échangeur, dont les spirales ascendantes nous étaient apparues de loin, échevaux et lancés de ponts jetés les uns par-dessus les autres, dans l'un de ces plans apparemment inextricables qu'affectionnaient les derniers sédentaires. Sur le bitume craquelé subsistent, à demi effacé, d'immenses flèches blanches indiquant d'inconnues directions. La silhouette des toits, identique et paisible, se découpait au loin sur la lande, ensemble rouge sous le ciel gris. Nous convînmes d'y aller trouver un abri. Notre caravane progressa lentement sur les plaques de béton mises à nu par le gel, qui faisait sonner nos pas et riper nos roues. Nous avons contourné plusieurs carrefours giratoires, envahis de ronces épaisses. Les voies s'en écartaient et s'éloignaient dans la steppe jusqu'à disparaître. Nous avons l'habitude de ces ronds-points trompant l'orientation, qui fleurirent de plus en plus fréquents au fur et à mesure qu'approchait le grand fracas. Nous avons fini par arriver au lotissement Grand Siècle. Il est pour ainsi dire intact. Il y a eu beaucoup moins de pillards qu'on aurait pu le craindre. L'une après l'autre, les maisons identiques, figées, envoûtantes. Nous progressons, guettons une présence qui n'advient pas. Il y a eu quelques dégradations, peu d'incendies. De ci, de là, des effigies brisées, lions de plâtre scalpés sur les portails, nains de jardin borgnes, au hasard d'un accès d'orage oublié. Rien d'un désastre spectaculaire, mais quelque chose d'un désarroi systématique. De maison en maison, carreaux biseautés, lézardes, gonds rouillés, volets tordus, tuiles manquantes, mousse et lierre. Tout semble dormir d'un sommeil étrange et légèrement grimaçant.
Cette première scène d'ensemble, ou vue d'ensemble, l'arrivée des nomades sur les ruines, qui est l'un des régimes de texte qui compose votre livre, Fanny Taillandier, il y en a plein, des régimes de texte, mais c'est vraiment un régime de texte de narration, tel qu'on le retrouvera d'ailleurs à la fin du livre, et qui porte ce nous des nomades qui reviennent sur les lieux des ruines. Quand je disais tout à l'heure en introduction que vous fichez le monde par terre dans la fiction, peut-être pour le regarder plus calmement, évidemment, dans une semaine fin de monde, on se demande... Qu'est-ce que ça crée ? Qu'est-ce que ça vous permet à vous, en tant qu'écrivain, de commencer par un monde qui est certes là, mais complètement détruit ?
Bon, déjà, ça permet de se faire plaisir sur la description et sur l'imaginaire, parce que bon, c'est une esthétique qui est l'esthétique du roman post-apocalypse, assez classique et qui est un genre que... Ah, qui est très séduisant justement parce qu'il permet d'avoir ces images de notre monde un peu effacées. Et puis c'est aussi l'esthétique du ruine porn qu'on peut retrouver notamment en photographie, et, bon, auquel je confesse que je suis assez sensible. Et donc ça c'est dans l'immédiat de l'écriture. Pour ce qui est de la réflexion, ça permet d'avoir un recul... effectivement un calme sur ce qui a lieu aujourd'hui, et ça permet aussi de suspendre tout jugement sur l'efficacité ou la non-efficacité, sur la vertu ou le vice de ce qu'on observe. Le lotissement, c'est un objet qui est très présent dans le paysage et qui est aussi très présent dans le paysage théorique, avec des gens qui sont fondamentalement contre, qui s'énervent très fort contre le lotissement, et à l'inverse des gens qui le défendent un peu bec et ongle. Et les deux postures me paraissent complètement incompréhensibles parce que de toute façon c'est là, il s'agit pas de savoir s'il faut le défendre ou pas. Et donc du coup ça permet en fait de s'éloigner de cette nécessité que demande le présent toujours de donner son avis, d'avoir une opinion, de construire un jugement, et qui pour moi relève absolument de tout sauf de la littérature, puisque pour moi toutes les grandes œuvres et notamment du point de vue romanesque sont des œuvres qui ne donnent aucune réponse, qui montrent des choses, qui font agir de l'ironie à un endroit où on s'y attend pas, etc., mais surtout pas qui viennent établir un bilan définitif de ce qu'on regarde. Donc commencer par les ruines, ça permettait d'avoir cet effet-là.
Et peut-être d'aller au plus proche du « c'est là » en passant par le « ça a été là ». C'est-à-dire que comme le monde est détruit et comme on constate plus que jamais qu'il a été là parce qu'il gît en ruine, de fait, la question de savoir si ça devait ou ne pas être là, c'est l'inverse d'une construction de roman qui commencerait par dire « alors je mets ceci là » et puis on va commencer dans un décor. Là, ça vous épargne le fait de dire oui ou non, ce serait bien que ça y soit.
Exactement, c'est exactement ça. C'est, ça a le, en fait, du coup, quelque part, l'effet de réel est tout de suite apporté au crédit du livre. Enfin, en tout cas, je l'espère. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de se poser la question de savoir si c'est réaliste ou pas. Ça ne l'est pas. Donc, en fait, les questions ne se posent plus de la même façon. Et par ailleurs, la forme archéologique, enfin, l'idée de l'enquête archéologique permet à la fois de se retrouver sur des ressorts narratifs qui sont ceux du roman à clé, de l'intrigue policière, etc. Donc c'est l'enquête, d'avoir un objet d'intrigue, et à la fois de jouer avec les mises en écho, comme vous le disiez tout à l'heure, que l'archéologie procure forcément, puisque l'archéologie c'est toujours une traduction de choses qu'on comprend pas en choses qu'on comprend. Donc c'était important pour moi aussi.
Et d'ailleurs, quand vous parlez de choses qu'on ne comprend pas et de en choses que l'on comprend, vous décidez de faire de ces explorateurs d'après la fin du monde des nomades, des gens qui s'apprêtent à regarder quelque chose qui est à l'inverse de la manière dont ils choisissent de vivre eux après la fin du monde, c'est-à-dire vraiment des sédentaires. Pourquoi ce choix-là ? Ça vous est apparu tout de suite que les narrateurs un peu principaux de ce livre-là se déplaceraient en caravane ?
Non, ça m'est pas apparu tout de suite. En revanche, j'aime beaucoup les nomades. Et notamment, il y a quelque chose qui me... Enfin, il y a une concordance de dates. C'est pas 1968, cette fois, c'est moins 6000, je crois. Mais je dis peut-être une grosse bêtise. C'est peut-être moins 3000, enfin bon, moins il y a longtemps. Il y a au même moment, invention de l'agriculture, donc sédentarisation, et invention de l'écriture. Et en fait, à ce moment-là, la boucle, notre boucle commence et on est encore dans la suite de ça. Donc c'est les monothéismes, la foi, enfin les pyramides, c'est là-dedans, etc. Et en fait, ce n'est qu'une étape de la longue, longue, longue histoire humaine qui avant ça a été nomade pendant des millénaires et des millénaires, et puis qui peut très vite le redevenir aussi. On sait qu'il y a de plus en plus chaque année de gens qui sont loin de chez eux. De l'endroit dont on a dit que c'était chez eux à un moment, en tout cas. Donc, ils sont des exilés, des déplacés. Il y en aura de plus en plus au cours du siècle. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que c'est un point de bascule qui remet radicalement en cause tout ce qui nous permet, nous, de penser et même de vivre et de nous projeter comme êtres humains, à savoir le sol, nos maisons dessus et puis l'écriture, quoi.
Et comme étant le centre où la norme, c'est-à-dire que ceux qui ont la parole et de surcroît ceux qui ont le pouvoir de faire parler ceux qui ne sont plus là, ce sont précisément ceux qui aujourd'hui n'ont pas le droit de parler, ceux qui se déplacent, absolument, ceux qui sont en caravane, ceux qui se déplacent ou ceux qui errent ou ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a quand même un inversement des forces qui opère dès le départ de votre livre.
Oui, c'est... Tant mieux si ça peut être un peu libératoire de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que on a une équation qui est posée à l'heure actuelle de manière scandaleusement affirmative en permanence, qui est migrant égale pauvre, par exemple, ou migrant égale danger. Alors là, on rentre carrément dans des délires dont il ne sera pas question maintenant, mais migrant égale pauvre, c'est une équation qui est complètement fausse.
En tout cas, migrant égale muet, égale
ouais,
pas de parole.
Aussi, égale sans voix, égale sans histoire, égale... sans mémoire, etc. Et c'est vrai qu'en fait, on a du mal à concevoir que la civilisation, c'est-à-dire ce qu'on envisage de grand en se pensant humain, soit autre chose que sédentaire. Alors qu'en fait, peut-être que le monde pourrait en aller différemment. Et en plus, les quelques cultures nomades qui arrivent à survivre dans la mondialisation aujourd'hui sont des cultures extrêmement riches. Donc,
et l'ont été.
Et le sont depuis extrêmement longtemps, oui, bien sûr. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve intéressant, la question du nomadisme.
Les intérieurs sont traversés de courants d'air. Ces jours fantômes peuplés de fantômes que nul ne soupçonne, où l'écho même paraît sourd. Partout, un indicible désordre, enfant du vent et de l'errance, a éparpillé les objets quotidiens, crasseux et touchants rappels des vies secrètes. Sur une table basse boiteuse, gît une télécommande orpheline. La poussière omniprésente forme une fine pellicule d'abandon sur les croisées et les poignées des portes. Qui hante ces chambres à l'air vicié et ces cuisines ternies ? Qui étais-tu, toi, dont nous visitons le séjour noirci. Toi, dont nous trouvons les haillons dans un placard. Toi, dont tel matelas garde l'empreinte. Vous tous, nos silencieux semblables. Leurs mots sont perdus. Peut-être au demeurant n'en avaient-ils pas. Seuls leurs objets pleins de poussière, seuls leurs canapés éventrés, seul le jardin en friche, pour témoigner de vies entières. Oui, telle est bien l'archéologie. Seules les choses, pour le moment, peuvent nous servir de point de départ. Pas d'autres signes, aucun langage.
D'abord les objets et ensuite le langage. Romain de Bec-de-Lièvre lit un deuxième extrait de votre livre, Fanny Taillandier. On est toujours dans ce premier moment où ces nomades survivants explorent les ruines de ce lotissement grand siècle. Simplement, on est rentré un petit peu plus dans les ruines des pièces. On entend des voix de fantômes, des objets, on voit de la poussière, des placards, des lits. Et la question qui vient très rapidement sous votre plume et dans la tête de ces nomades, c'est qui sont-ils, ceux qui ont laissé ces traces-là, et surtout, qu'est-ce qu'ils avaient à dire? Et vous allez complètement, en tant qu'auteur, à rebrousse-poil de la critique que vous faites entendre par ailleurs de qu'a généré ou que génère encore ces lotissements. Vous faites entendre la possibilité d'un désir d'être là, en tout cas d'avoir habité là certainement. Ça passe par ça, dans l'écriture aussi, de chercher le désir de ceux qui ont voulu habiter là.
Oui, je crois que c'est une, enfin, pour, d'une façon personnelle, c'est une forme urbaine, enfin, c'est-à-dire un type de, d'endroit que j'ai beaucoup fréquenté dans ma vie. J'ai des membres de ma famille qui habitent dans des lotissements. J'ai eu des amis d'enfance dans des lotissements, etc. Et en même temps, c'est quelque chose qui a pu me donner envie de fuir, mais à un point. Incommensurable, parce que ça peut avoir quelque chose d'extrêmement angoissant. Effectivement, les maisons se ressemblent. Comme les routes sont en général courbes, on s'y repère pas. Et d'ailleurs, des habitants m'ont dit que des fois leurs invités se trompaient de maison et sonnaient chez des voisins parce qu'ils trouvaient pas le bon pas de porte. Donc ça, c'est très angoissant. Et en même temps, effectivement, en fait, je crois que je suis aussi très sensible à la beauté que ça, ces espèces d'endroits un peu improbables où les maisons sont toutes les mêmes et tout ça. Et donc du coup, qui dit beauté dit désir, et qui dit habitant d'un endroit dit aussi que on vit en se projetant dans le paysage familier. Et donc du coup, c'est, je crois que c'est le moyen du désir était le moyen qui me permettait d'arriver à, non pas l'identité, parce que je prétends pas avoir tout dit sur les gens qui habitent là, et je prétends d'ailleurs pas non plus que les gens sont tous les mêmes dans ces endroits, mais en revanche, le désir d'avoir quatre murs, un toit et la famille qui va avec, est un désir que je trouve assez intéressant. Et qui, en plus, n'est pas indifférent à l'époque dans laquelle on vit. Et ça, c'est l'autre idée pour moi qui est très importante sur le lotissement, quand on parle du lotissement, mais quand on parle du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est que en vrai, nos désirs sont construits. Et aller habiter là, c'est une part de désir personnel, bien sûr, mais c'est aussi ce que un certain système, ce qu'une certaine éducation, ce qu'une certaine société nous pousse à désirer. Et c'est important aussi de le voir dans ce contexte-là.
Mais là encore, dans le regard que les nomades posent là-dessus, a posteriori donc, et après la destruction, vous ne faites pas le choix de simplement choisir l'un ou l'autre. C'est-à-dire, vous dites, ce désir est honorable et il est aussi digne, et vous vous en approchez, on le verra plus tard, au plus proche. Par ailleurs, il est aussi construit, il est construit socialement, politiquement, etc. Mais vous faites exister les deux forces au même titre, comme si vous aviez finalement poussé aussi la porte de ces espaces-là et pas simplement... Enfin, d'ailleurs, vous le dites, mais pas simplement regarder de loin, en fait.
Oui, après ça, je crois que c'est le type de désir qui m'anime en littérature, de vivre des vies qui ne sont pas les miennes et auxquelles je ne peux pas accéder parce que je suis une seule personne avec les limites de l'individu, quoi. Et du coup, c'est toujours. C'est comme ça que la littérature fait voyager, enfin me fait voyager. C'est en allant chercher à me fondre dans le désir et dans les angles morts aussi, et les peurs des autres. Et donc du coup, en partant de la maison, je pouvais aussi aller vivre ces vies-là, c'est-à-dire des vies qui pour le coup ont un dénominateur commun à pratiquement 100%, c'est que pour habiter là, il faut s'endetter. Pour s'endetter, il faut avoir capacité de remboursement. Pour avoir capacité de remboursement, il faut avoir un CDI. Et par ailleurs, tout ça repose sur une vision de la vie qui est une vision familiale de la vie. Et tout ça, ce sont des choses qui, moi, ne correspondent pas à ce que je vis dans ma propre vie. Et donc, du coup, que je peux aller explorer... par ce détour de la littérature.
En même temps, vous montrez bien, et on y viendra, que tout ça explose et éclate justement une fois qu'on pousse la porte. Parce que ce que ne fait peut-être pas un discours critique et sociologique à grande échelle sans pousser ces portes-là, c'est de dire que derrière l'image d'une homogénéité, il y a de l'hétérogénéité et il y a du chaos. Et c'est aussi pour ça que d'un premier moment de 50 ou 60 pages où la narration est prise en charge par un nous avec une forme de linéarité, on arrive à des endroits du texte où tout est épars, tout est débris et tout est chaos, comme si vous étiez dit que c'était pas tenable en fait de raconter ce lotissement d'un seul trait.
Mais parce que ça serait complètement, je pense inintéressant en fait, parce que un lotissement d'un seul trait, c'est le lotissement qu'on voit en passant sur une route en voiture ou par la fenêtre du train. Là, pour le coup, c'est toujours moche et ça n'a aucun intérêt. En revanche, si ne serait-ce qu'en y allant à pied un dimanche, quand on voit, il suffit qu'il fasse beau et que les arbres soient en fleurs, etc., et qu'on voit les gens dans leur jardin, c'est des scènes qui sont assez belles, qui ont une espèce de beauté un peu à la Rockwell ou à... Enfin, comme ça, un peu premier réalisme américain, avec cette espèce de naïveté. Et effectivement, je pense que ça fait pour beaucoup dans l'esthétique de ces endroits-là, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les gens veulent y vivre. Et en même temps, ça nie complètement la complexité qui est celle de l'être humain et qui est quelqu'un qui est bordélique, qui un jour est de bonne humeur et puis le lendemain a envie de dégorger sa femme ou son mari ou son enfant, enfin peu importe, enfin avec toutes nos pulsions contradictoires qui font qu'on n'en finit jamais de vivre et de se dépatouiller de nous-mêmes. Et ces endroits-là, comme tout endroit homogène, hein, ça marche aussi. Enfin là, pour venir à la maison de la radio, quand on passe par ce magnifique quartier de Passy, on se dit la même chose. C'est tellement beau, etc. En vrai, ça cache aussi, comme partout, les mêmes drames et les mêmes complications, etc. Donc le décor explose toujours fatalement.
Voilà, c'était hier matin. Tu rentres jeudi et moi je t'écris tout ça pour que tu comprennes quand tu rentreras pourquoi mes robes ne sont pas dans notre dressing, pourquoi les chambres des jumeaux sont si rangées et si vides. Pourquoi Jennifer et Tom font une tête de 6 pieds de long. Le temps passait bizarrement ce matin-là et par moments la tête me tournait un peu. Je me sentais patraque, la faute sans doute aux médicaments. Et tout à coup, Tom a été devant moi. Je l'ai vu. Alors là, ce fut la totale, j'avais froid et chaud en même temps, les joues brûlantes et tout à coup l'impression que tout mon sang se retirait de ma tête. Il m'a souri d'un air malicieux et s'est approché de moi. J'ai dû essayer de parler, ma bouche était sèche. Je lui ai proposé à boire. « Qu'est-ce que tu ressembles à ton père ?» je lui ai dit, « quand tu es chic comme ça. » Il a souri une nouvelle fois. C'est vrai que cette chemise, la veste à la main, ce costume d'homme d'affaires, j'avais l'impression de te voir à 20 ans si je t'avais connu. C'est pas une excuse, je sais. Je lui ai demandé comment s'était passé son oral. Il a répondu « bof, il était tombé sur Phèdre et il aime pas trop les tragédies », m'a-t-il expliqué. Il s'est assis sur le canapé et a étendu les jambes. Je me suis assise à côté de lui. Il regardait par la fenêtre la piscine lisse et je voyais les petits cheveux qui repoussaient sur sa nuque, mi-poil, mi-duvet. J'avais envie de les toucher. J'ai dit « Ton père est parti ». Il s'est retourné et m'a regardé d'un air un peu surpris. J'ai baissé les yeux vers sa main, posée sur le cuir du canapé entre nous deux. Ses longs doigts forts recouvraient presque entièrement la canette de soda perlée de rosée, à quelques centimètres de ma cuisse dénudée par le short en jean que j'avais enfilé au seau du lit. Je me disais bon sang, mais qu'est-ce que j'ai ?
écouté France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Fanny Taillandier, le décor commence à craquer à ce moment-là du texte et les formes de texte à se diversifier. Ici, c'est une clé USB et un document qui est trouvé, qui a manifestement été écrit pour être envoyé ou imprimé et donné par une femme qui avoue dans ce document avoir désiré, et plus encore, son beau-fils, puisque c'est une femme qui vit en famille recomposée et qui s'adresse à son mari. Auparavant, ou après, je me souviens plus, mais en tout cas, il y a des extraits de chats érotiques via Internet avec des récits de coucheries à deux ou trois et de séances de bondage, et puis ensuite des rapports d'enquête, etc. Le décor craque tellement que il semble que vous ayez eu besoin de vous amuser avec ces craquements-là. Est-ce que c'est le moment où c'est devenu très drôle ?
Oui, c'était franchement drôle de enfin l'extrait que vous avez lu qui est une réécriture de Phèdre. Bon, sans prétention à ressembler à Racine du tout, comme on peut le constater d'ailleurs. Je me suis vraiment bien amusée. Et puis en fait, on peut vraiment trouver plein d'intrigues très amusantes à faire dans le décor du lotissement, mais qui sont des intrigues de faits divers plus ou moins sordides, ou alors de petits vices cachés. Et donc oui, c'est très amusant à faire. Mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, la complexité de l'être humain. Que j'évoquais et qui fait craquer le décor, justement, je trouve qu'elle n'est jamais aussi bien dite que dans les textes du XVIIe siècle, puisqu'ils étaient complètement obsédés par ça, par les deux infinis dans l'homme, etc., par l'apparence et le péché caché derrière toute apparence, même la vertu est un vice, etc. Et du coup, La parodie se doublait d'un autre sens, c'était aussi de dire oui, finalement, on a nous-mêmes à nos dispositions, nous pas les nomades, nous êtres humains d'aujourd'hui, on a à disposition on sait tout ça en fait, on sait que ces fissures existent et on sait qu'elles nous constituent et qu'elles constituent la littérature. Et du coup, de pouvoir réinvestir ces formes-là, ces thèmes, ces histoires qui qui sont dans mon panthéon personnel depuis très longtemps, en les mettant dans la réalité plate du quotidien d'une banlieue lointaine, plutôt jolie certes, mais bon quand même pas non plus idéale. Ça c'était assez libérateur par rapport à cet héritage aussi. Ça me permettait de le reprendre et de me dire non, en fait c'est toujours actuel, ça existe en tant que tel.
Ça existe et ça enseigne, parce que en lisant, je me disais, c'est tout de même pas un hasard que le décor craque par le désir, que le décor craque par le surgissement de la sexualité, quelle qu'elle soit, et d'ailleurs, quelle qu'elle soit considérée déviante. Il y a aussi ça, tout de même, dans tous ces épisodes-là, c'est que vous décriviez au départ combien ces nomades regardent les lotissements des anciens sédentaires comme étant ce modèle de la famille nucléaire installée avec un travail, se déplaçant, etc. etc. Ici, on entend l'inverse. Enfin, on entend ce qu'on considère habituellement comme étant l'inverse, ce qui fait que ça surgit avec ironie, mais que ça surgit pas par hasard. On a la sensation que vous le mettez là pas par hasard quand même. Ces questions de normes sexuelles, familiales, d'amour, de désir.
Après, c'était aussi sans doute le biais le plus facile pour attaquer, pour subvertir ce que c'est que cette forme de vie qui est proposée dans le lotissement, où on a vraiment, je pense, une complicité extrêmement forte entre l'État, pour le dire vite, et les individus qui acceptent d'aller habiter là et qui cherchent à aller habiter là. Une complicité extrêmement forte pour arriver à un endroit où l'individu est lavé de lui-même. On s'épanouit dans une vie extrêmement ordonnée, c'est au carré, la maison est au carré, le jardin est au carré, la voiture a sa place dans le garage, papa a sa place dans maman, les enfants ont leur chambre et le supermarché est à deux pas. Et donc il y a vraiment quelque chose qui est hyper ordonné. Je pense que ça correspond à une ambition de tout un chacun, de faire de l'ordre autour de soi. Mais sauf qu'en réalité, on revient toujours à ma conviction profonde qu'on n'y arrivera jamais. Et c'est toujours recommencé. Évidemment que la sexualité, les pulsions de manière générale sont là pour nous contredire et nous contrarier à chaque fois qu'on essaye de croire qu'on est au-dessus de ce genre de problème, à chaque fois, on peut être sûr qu'on a une pulsion qui arrive derrière et qui envoie valdinguer ce qu'on avait organisé. Du coup, oui, le sexe, est, bon là, c'était une nouvelle plutôt du côté du sexe, mais il y a aussi des petites fictions avec des crimes.
Des meurtres, voilà, et... la drogue, les punks, les jeunes voilà. Déviants, le rock'n'roll.
Mais ça, c'est parce que c'était aussi, pour le coup, très amusant d'imaginer... que les libertins du XVIIe siècle seraient aujourd'hui en fait des punks, et que le regard que porterait la société sur les libertins aujourd'hui, ça serait celui qu'on porte sur les punks en disant « mais c'est pas possible, qui sont-ils, pourquoi ont-ils les cheveux de cette couleur, etc. » Donc c'est, enfin, voilà, cette façon de voir que les étonnements finalement trouvent toujours les mêmes endroits par rapport à une norme qui est toujours plaquée, enfin surtout au XVIIe siècle, qui est vraiment, qui arrive d'en haut et à laquelle tout le monde essaye de se plier tant bien que mal, mais n'y arrive pas du tout.
Donc quand vous dites que ça se rejoue et qu'on sait tout ça, c'est aussi une façon, cette façon d'arriver après la fin du monde, de dire finalement nos mondes se succèdent et on fait comme si on n'était pas au courant que le monde d'avant avait existé avec tout ce qu'on est censé savoir. Ouais. Comme si on n'héritait pas en fait.
C'est ça, c'est comme si on n'héritait pas. Et puis il y a une idée qui est très présente et que je trouve assez agaçante, qui est celle qu'on progresse. Mais en vérité, on progresse pas du tout. Et en vérité, d'un point de vue strictement de la maîtrise de la langue, par exemple, on a vraiment rétrogradé depuis le XVIIe siècle, de manière catastrophique, du point de vue de la maîtrise de la langue. Par contre, du point de vue de la médecine, si on voit la façon dont c'était exercé à l'époque, effectivement, il y a un mieux. Mais en tout cas, le reste, c'est-à-dire le fond de nous, de nos vies, se rejoue en permanence. Et oui, l'héritage, on l'a toujours, on l'oublie toujours. Et puis à chaque fois, on se rend compte que, ah bah oui, on le savait déjà. Et ça, c'est, je pense, l'histoire de la littérature, en fait. De toujours se souvenir que, ah oui, mon père m'avait dit, ma mère m'avait dit, etc. Ça va du petit chaperon rouge à Rublas et à Hernani, quoi. Voilà.
Quand on construit une ville nouvelle, deux questions se posent. La question de lieu, où construire la ville. Et la question comment. Quelle forme donner à cette ville? La première a presque toujours appartenu aux politiques. Mais seuls les architectes, qui sont par destination des créateurs de formes, ont le pouvoir de répondre à la seconde.
C'est ça. Pour expliquer la ville, on pourrait, disons, se contenter de dire au départ, il y avait le village, il a grossi, il est devenu une ville. Ce serait en grande partie faux. Au village, il n'y avait, pour être schématique, que des paysans, des chasseurs, des bergers. La ville commence lorsqu'arrivent de nouvelles activités. Bûcherons, pêcheurs, puis commerçants, puisqu'il faut bien échanger les produits, banquiers, prêtres, etc. Qui dit croissance dit donc monde nouveau. Ça n'a pas changé depuis d'ailleurs. Lorsqu'un village de la banlieue d'une ville est gagné par les constructions, ses activités changent du tout au tout. Ce monde nouveau, il faut bien l'organiser. Il faut que ses activités soient le plus variées possible et qu'en outre elles soient protégées. La ville se fera donc d'elle-même au nœud de communication et s'entourera de fortifications pour se défendre. Elle pourra être carrée, comme Montpazier dans le Midi qui reprend le plan des camps militaires des Bastides anglaises. Sa forme pourra même se compliquer beaucoup, comme en Italie à la Renaissance où Scamozzi dessinait des villes en forme d'étoiles, des formes qui seront d'ailleurs reprises au XVIIIe siècle en France par Vauban. La ville pourra aussi grandir, prendre comme à Nice la forme de demi-cercle concentrique. On arrivera toujours, jusqu'à une époque récente, à contrôler son évolution. La ville se parera de signes distinctifs, des temples, des tours, comme à San Gimignano en Italie, des palais, feront que, à l'inverse de ce qui se passe dans ces banlieues, aucune silhouette de ville ne pourra être confondue avec une autre.
Il y a assez peu le terme banlieue dans votre texte, Fanny Taillandier. Je ne suis même pas sûre qu'il arrive une fois, ou si en tout cas une, mais en tout cas pas beaucoup plus. Ici, l'intérêt pour l'urbanisme et la ville de Romère est frappant dans cet archive de 1975. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il parle de forme et que, par contre, ça c'est quelque chose sur laquelle vous vous penchez dans votre texte, parce que vous reproduisez par exemple des plans de route qui changent notre regard. Pourquoi est-ce que ce plan-là du lotissement Grand Siècle nous apparaît et vous est apparu comme fascinant?
Je crois qu'on l'entend dans l'intérêt que porte Romer à la question et puis dans... plus globalement, on le voit dans Romer et je crois que c'est quelque chose de très répandu. Il y a une grande séduction pour l'esprit, c'est de penser que le plan, que la carte reflète le territoire, mais que aussi le plan reflète la politique. Et à partir de ce postulat-là, bon, on peut démontrer des tas de choses qui ne sont pas forcément fondées quand on regarde l'histoire, mais quand, Pour ce qui est du plan du lotissement, ça a été étudié par David Mangin, qui a fait un livre sur la ville franchisée qui a fait date. Et à un moment donné, il dit qu'il y a trois types de plans pour les lotissements. Il y a la raquette, la boucle et la marguerite. C'est-à-dire qu'on est sur une excroissance par rapport à un axe de communication quel qu'il soit. C'est une des raisons pour lesquelles la banlieue en tant que telle n'apparaît pas, puisque en fait le lotissement n'a pas besoin d'être en banlieue. Le lotissement peut être absolument n'importe où tant qu'il est connecté à un axe. Et en revanche, à l'intérieur du lotissement, on ne va nulle part. On est dans une boucle fermée. Et en ça, il rejoint le plan de toutes les utopies. Il y en a une partie qui sont évoquées dans l'archive qu'on vient d'entendre, mais toutes les utopies se font sur des formes régulières et fermées à la fois. Et le plan qu'on voit, qui est le plan du lotissement Lévite de Lézigny, en Seine-et-Marne, est presque parfaitement circulaire. Bon, alors j'ai un tout petit peu travaillé l'image pour que ça soit encore plus parfait, mais on voit cette volonté de faire un lieu à la fois clos et à la fois parfait, et donc d'aller du côté de l'utopie. Et à partir de là, même si c'est, comme je le disais, un postulat qui est séducteur et parfois trompeur, on ne peut pas ne pas en déduire qu'il y a eu une certaine vision idéale qui a présidé à sa fondation. Et c'était ça qui était intéressant, c'était d'aller voir qu'est-ce que ça veut dire de faire une ville en cercle fermé. Et en plus, où il n'y a que des habitations, parce que là, ils le disent aussi. Une ville, normalement, c'est forcément une pluralité de fonctions humaines. Là, on ne peut que habiter. Et c'est d'ailleurs un des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que ces formes ont du mal à évoluer vers autre chose. On aura du mal à en faire des centres de quoi que ce soit. C'est difficile d'installer une boulangerie ou des bureaux dans un lotissement. Donc c'est assez intéressant parce que ça extrait l'homme de tout système d'échange, de tout système de production. Il est là pour se reposer, quoi. Et on est, de toute façon, à ce moment-là, on est dans les longues suites de la Charte d'Athènes et des trois impératifs du Corbusier qui sont travailler, se récréer, se déplacer, je crois que c'est ça. Et on est dans se récréer. Et donc le Corbusier avait décidé, lui, c'était très clair, qu'il fallait séparer ces fonctions-là. En vérité, le problème quand on sépare ces fonctions-là, c'est qu'on a des tas d'endroits qui sont extrêmement désagréables d'un point de vue ou d'un autre, puisqu'on ne peut jamais... On perd en liberté, en fait, ce qu'on gagne en productivité.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que pendant tout le livre, il y a la question du jeu de reflet, du jeu de l'illusion, de la manière dont fonctionne un reflet qui est à la fois qui renseigne, qui informe et qui trompe. Et on ne peut pas voir l'intérêt des nomades pour ces ruines-là comme un seul intérêt pour ce lotissement. Et on a vraiment la sensation que s'ils regardent de si près ce lotissement, c'est parce que forcément, c'est un reflet pour eux de toute une société qui aurait disparu. Est-ce que c'est aussi l'hypothèse que vous faites ?
Je suis absolument convaincue que le lotissement ne se comprend que dans un système et que le lotissement va avec la route, l'autoroute, enfin la route pour les automobiles et le centre commercial. Ça va ensemble. C'est un schéma de croissance.
Va aussi avec la ville, la politique de la ville, un système commercial, absolument, un système économique. Oui. Et donc ça va aussi contre une forme de pensée qui regarderait ce lotissement-là comme en dehors de tout, ce qui est beaucoup dit et beaucoup écrit en fait.
Oui, il n'est pas du tout en dehors de tout. C'est juste une spécialisation spatiale d'une des fonctions que veut remplir l'état de croissance, à savoir parquer les employés productifs, la main-d'œuvre. Et c'est ce que dit d'ailleurs Debord en parlant, il parle un tout petit peu dans la Société du spectacle de ce type d'urbanisme. Donc lui, il dit que c'est la séparation achevée, et il comprend ça dans un point de vue marxiste, c'est-à-dire la séparation achevée de la force de travail d'un côté et le produit du travail, la conscience de classe. Alors là, elle est partie dans les limbes du spectacle, donc là, c'est le point de vue de Debord, hein, c'est pas forcément ce que moi je défends. Mais en tout cas, on est dans une spécialisation. Et cette spécialisation, c'est quelque chose qu'on retrouve à tous les étages de la société de croissance, puisque ça va avec la rationalisation. Spécialisation des tâches à l'usine, spécialisation des espaces de production avec les zones industrielles, les zones commerciales qui sont séparées, etc. Et donc on a cette fragmentation du paysage qui explique aussi peut-être la forme finalement assez fragmentaire et du livre et du lotissement lui-même, puisque finalement c'est quand même des fragments de vie commune, quoi.
Ce que ces ruines dégageaient de fascinant, nous avons cru le comprendre. Nous avons cru qu'il y avait quelque chose à comprendre. Mais peut-être notre curiosité, qui nous a poussés ici à l'étude et à la fouille, nous a-t-elle induit en erreur sur toute la ligne. Il est possible que toutes les conclusions de cette enquête soient fausses. Elles resteront, de toute façon, invérifiables. Leur valeur, si valeur elles ont, réside autre part. L'archéologie nous parle de nous. Dans ces étranges vestiges, nous avons cherché à distinguer nos prémices, à lire les augures de nous-mêmes, les indices de notre propre désir. Nous savons désormais que nous avons été séduits par cette hypothèse qu'au lotissement grand siècle se soit trouvé l'image d'une foi et la possibilité d'une révolution. C'est à tout le moins un désir honorable. Il n'est pas sûr non plus que nous ayons eu tort. Un couple de Milans royaux tournoie dans le ciel bas et gris. Au rythme lent de notre caravane, la silhouette monotone des pavillons du lotissement grand siècle s'éloigne derrière nous, aux confins de la lande, gardant intactes ses énigmes.
C'est la réponse que fait Odozen peut-être à l'énigme dans laquelle se termine, ou en tout cas avec laquelle se termine votre livre, Fanny Taillandier, et que lisait tout à l'heure Inès Duperron. Parce que si la question du silence et du retour au silence et du fait de se taire peut-être est toujours posée par les nomades quand ils arpentent les ruines, ils font le choix, en quittant les ruines et en quittant cet endroit désolé, de ne rien résoudre et de se dire que peut-être ils ne sauront rien des paroles qu'ils ont cru entendre. Ce retour au silence-là, c'est pourquoi ?
Bah, ils sont nomades, donc ils arrivent quelque part, ils vivent quelque chose et puis ils repartent. Et voilà, la question de la mémoire n'est pas une question qui les intéresse en tant que telle, je crois. Donc c'est, voilà, pour moi c'était ça. Et puis ils partent quand même avec cette idée que y a le désir d'une, je ne sais plus, elle l'a lu tout à l'heure,
mais d'une révolution,
la possibilité d'une foi et d'une révolution. Et finalement, ça, c'est pour moi, c'est pas rien, parce que c'est dire en fait, on n'est pas dans des endroits désenchantés comme on veut nous le faire croire, et on n'est pas non plus dans des endroits figés. Et ces endroits, que ce soit le lotissement, mais même la vie, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, peut-être qu'il a la possibilité d'une foi et d'une révolution, et ça sera toujours ça. Et c'est, pour moi, la meilleure conclusion, c'est la possibilité de. Donc après, libre à chacun d'embarquer plus que les nomades à la fin de ce livre.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Richeux.
Et il est 14h52 sur France Culture, c'est l'heure de la quatrième histoire de Paco Mthielman. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en passer les semaines suivantes. Romain de Bec de Lièvre et Alice Ramon lui ont demandé 5 versions de la fin des temps. Aujourd'hui, il évoque Messaline.
Messaline, donc, qui était la femme de l'empereur Claude, était notoire pour non seulement sacrifier tout à ses plaisirs, mais aller très très loin par rapport à ça, menacer de mort les hommes qui voulaient pas coucher avec elle, se prostituer avec une perruque blonde dans les faubourgs les plus obscurs de Rome, sacrer empereur à la place de son mari un homme qu'elle a beaucoup aimé, et vouloir remplacer son mari par lui, vouloir faire disparaître son mari et le remplacer par lui. Énormément d'histoires ont été racontées sur Messaline, qui tenaient tous à l'idée d'une femme qui sacrifiait tout à son propre plaisir sexuel. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que dans tous les textes des Romains, des Latins, qui parlent d'elle, en fait, c'est un symbole. C'est des textes toujours polémiques, il n'y en a pas un seul pour trouver qu'elle est sympa. Et qui voit dans Messaline, ou qui voit dans la possibilité d'une femme qui sacrifierait tout à son plaisir, le signe de la décadence de l'Empire romain, et donc les signes avant-coureurs de la fin. En fait, dans l'Apocalypse, ils reprennent le même thème, qui est que une femme qui aime faire l'amour, en fait, en gros, et ben c'est la pire des choses au monde. C'est la fin de la civilisation. C'est très différent, comment dire. C'est, on sort vraiment de l'espèce de stupide duo, la maman et la putain, sachant que la maman, donc c'est la femme qui garde la maison, et la putain, qui est en fait une femme qui est là pour le plaisir de l'homme, évidemment. Donc là, une femme qui pense à son plaisir d'abord met en danger la civilisation, en tant que finalement la civilisation repose sur le sevrage des hommes et des femmes, et là en l'occurrence sur le sevrage des femmes. Il a fallu attendre très longtemps avant que Messaline devienne un personnage positif. Quasiment, il a fallu attendre Alfred Jarry, au XXe siècle, donc. Quoi, il y a eu des choses chez Sade. Mais bon, chez Sade, les femmes font beaucoup de mal à côté. On peut pas dire que c'est juste leur plaisir, c'est aussi la souffrance des autres. Et ça va dans les deux sens. Donc bon, Sade, on peut pas vraiment le prendre comme exemple ou comme modèle ou je sais pas quoi. C'est trop singulier. Mais il a fallu quasiment attendre Alfred Jarry pour voir représenter le personnage de Messaline comme véritablement d'une mystique. C'est-à-dire que pour Jarry, en fait, Messaline, à travers son désir, est habitée par un désir qui dépasse l'entendement humain, qui est un désir d'absolu, et qu'aucun homme ne peut satisfaire, mais que rien ne peut satisfaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une figure de l'artiste, c'est une figure de la création. Et c'est ce que reprendra Lars von Trier dans Nymphomaniac. Il y a une étrange cousinage entre Alfred Jarry et Lars von Trier. Je n'ai jamais entendu Lars von Trier parler d'Alfred Jarry, mais il se trouve que les trois figures sur lesquelles ils ont travaillé, tous les deux, les figures apocalyptiques, sont l'Antéchrist, César Antéchrist et Antichrist, l'étoile absinthe, qu'on retrouve dans Mélancolia, et puis la grande prostituée de Babylone, qu'on retrouve dans Messaline et dans Nymphomaniac. Derrière ça, c'est l'idée en fait que il n'y a pas à châtier l'humanité pour son inassouvissement. L'inassouvissement en fait chez l'homme ou chez la femme est au contraire un signe de grandeur. Le fait qu'on n'en ait jamais assez, le fait que c'est jamais assez beau. C'est ça qu'on voit chez Joe dans Nymphomaniac. C'est mon seul péché a peut-être été de vouloir des ciels plus bleus et des horizons, ou je sais pas quoi, des crépuscules plus colorés. C'est-à-dire d'être dans une attente de plus de la vie, que la vie ne nous donne plus. En réalité, quand les polémistes latins ou chrétiens sont obsédés par les nymphomanes. Ce qu'ils ne supportent pas, c'est qu'il y ait des personnes qui attendent une vie plus intense.
Your step. She is going to break your heart in two. It's true.
It's not hard to realize. Just look into her false color.
Femme Fatale, repris par Émilie Simon, Femme Fatale de Velvet Underground. Et évidemment, merci beaucoup Fanny Taillandier.
Mais avec plaisir.
D'avoir été avec nous cet après-midi. Les États et Empires du lotissement Grand Siècle est paru aux éditions Puch et il vient de recevoir aujourd'hui le prix Virilo. Bravo.
Merci.
Les Nouvelles Vagues, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on peut continuer d'échanger sur franceculture.fr où se trouve le podcast et la réécoute de cette émission et de toutes les émissions de la série. On peut aussi échanger via Twitter, Facebook et la petite enveloppe du site franceculture.fr. Un grand merci pour vos messages et pour votre écoute. Un grand merci aussi à Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon qui pensent et préparent cette émission tous les jours avec moi, à Véronique Villa qui la réalise et aujourd'hui à Jean-Frédéric qui était aux manettes. Dans un instant, c'est la littérature qui continue autrement avec Oscar Wilde et Mathieu Garrigou-Lagrange. Autrement, bah oui, il rigole Romain. La compagnie des auteurs. À demain.